Bien, chers frères et sœurs, durant tout le temps pascal, le Christ apparaît comme passablement métamorphosé. Alors, ce mot, on ne l'aime pas beaucoup, mais c'est le mot dont on se sert en grec pour qualifier la transfiguration. Parce que nous, ça nous évoque des apparences multiples, variées. Jésus, il apparaît sous les traits d'un jardinier, à Marie-Madeleine. Et puis, sous les traits d'un étranger, aux pèlerins d'Emmaüs, sous les traits d'un inconnu, aux apôtres qui vont pêcher, puis enfin, comme cette espèce de lumière totalement fulgurante pour saint Paul. Et finalement, c'est bien difficile de s'y retrouver. Comment reconnaître le Christ dans ce temps pascal? Et puis pour finir, après l'ascension, il ne va plus apparaître du tout. Et pourtant, il est toujours là. Jusqu'à la fin des temps, si nous croyons sa parole. Alors c'est pour cela que dans ce chapitre 14 de saint Jean, eh bien nous avons ce grand discours avant la passion, avant que Jésus aille sur la croix, pour que Jésus puisse préparer ses disciples. Il leur dit en gros, « Je vais disparaître dans la mort, alors vous ne me verrez plus. Puis je reviendrai par ma résurrection, et là, vous me verrez, mais seulement vous pourrez me voir. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est vrai que le monde entier a pu se rendre compte du procès de Jésus, de sa flagellation, de sa mort sur la croix. Les historiens profanes, les historiens athées même ont pu en faire état. Un homme pendu à la croix aux portes de Jérusalem. Mais le ressuscité, il va réserver ses apparitions à ses disciples, j'allais dire à ses intimes. Pilate, ni Hérode, ni les grands prêtres n'en sauront rien. Mais qu'est-ce qui va permettre justement à ses disciples de discerner, de reconnaître le Christ ressuscité? Alors, une petite métaphore. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des messages codés de série de trois lettres révélaient tous les faits et gestes de l'armée allemande. Et le Reich avait trouvé ce moyen de coder toutes ces communications. Et les Alliés, qui voulaient quand même en venir à bout, avaient fait des recherches immenses pour pouvoir décoder tout cela. Et finalement, ce sont les Polonais qui ont réussi à construire la machine, cette machine qu'on appelle Enigma, qui permettait de décoder les messages et d'aller à la vérité de leur signification. Bien, chers frères et sœurs, pardonnez ce petit détour, mais pour nous aussi, il nous faut un décodeur, quelque chose qui nous permet de décrypter, justement, ces apparences du Christ. Et le grand décrypteur, eh bien, vous le savez, c'est l'Esprit-Saint. Tant que nous ne sommes pas dans l'Esprit, le ressuscité nous reste inconnaissable, voilé. Regardons même Marie-Madeleine. Elle est encore trop du monde, trop attachée peut-être à sa tristesse, et du coup elle est incapable de reconnaître Jésus ressuscité dans le jardin. Elle n'est pas encore dans cette lumière de l'Esprit. Saint Paul, lui, va nous le dire aussi. Pendant tout un temps, il a connu Jésus, et il le dit, selon la chair. Il n'est resté qu'à une apparence qui, au bout d'un certain temps, est décevante. Il dit après, « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Il a accédé à cette connaissance du Christ selon l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Jésus nous dit, si tu restes simplement dans le sensible, dans l'affectif, dans le spectaculaire, tu n'accéderas jamais au Christ ressuscité. Ces dimensions humaines, elles ont toutes leur raison d'être, mais elles doivent être comme assumées par une dimension plus profonde. Permettez-moi de citer un de nos vieux pères plein de sagesse. il me disait, ne vis pas d'impression, mon garçon. Voilà, si tu restes aux impressions, eh bien, à ce qui t'émeut, à ce qui te plaît ou te plaît pas, eh bien, tu ne comprendras jamais la réalité telle qu'elle est, la réalité qui t'entoure. Il nous faut accepter d'être dépouillés comme Marie-Madeleine pour accéder à cette nouvelle vision. Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me retiens pas. Il faut accepter de rentrer dans une vie intérieure, de passer des sens au cœur. Alors, la vision de foi peut advenir. Parfois, il faut le reconnaître, quelque chose de Dieu semble disparaître dans nos vies. Sa clarté, sa lumière, sa bonté même, sa bonté sensible. Alors nous sommes dans la nuit. Mais quelque chose demeure, l'esprit. L'esprit, c'est cet invariant qui est comme ce courant extrêmement profond en nous qui va nous réorienter sans cesse vers le ressuscité que nous le percevions en nous. Dernièrement, on a pu entendre les lettres de Mère Teresa lues de manière théâtralisée, c'était magnifique. Et ces lettres qui font état de cette terrible nuit dans laquelle Mère Teresa est entrée. Et elle a vécu des années durant. Elle ne percevait comme absolument rien sensiblement du Christ. Mais on est très frappé de voir qu'à chaque instant, elle est comme radicalement, absolument et parfaitement orientée vers lui et que rien de sa vie ne se perd pour le royaume. Pas un retour sur elle-même, pas une lamentation. Et la petite Thérèse, en pleine nuit elle aussi, la nuit de la maladie, la nuit de l'impression qu'il y a un mur entre Dieu et elle, disait malgré tout, le fond de tout, c'est la joie, parce que l'esprit ne l'avait pas quitté. Quand on semble avoir tout perdu, lui, l'esprit demeure, parce qu'il est ce don irrévocable. Alors peut-être que ça nous semble un peu loin, ces grandes mystiques qui ont eu des nuits, on n'en est pas forcément là. Mais malgré tout, les nuits dans nos vies ne manquent pas. Nuit des problèmes de santé, Dieu, on a l'impression qu'il ne nous bénit pas parce qu'il ne nous donne plus la vie, plus la santé. Nuit du deuil, de ces séparations parfois si douloureuses. Nuit des conflits, de l'incompréhension. Nuit de la difficulté pour élever ses enfants ou du chômage. Alors c'est le moment de s'appuyer sur cet Esprit Saint extrêmement profond qui ne dépend pas des circonstances. Cela nécessite une vraie intériorité. Alors il faut reconnaître, c'est aller un peu contre l'esprit du monde. On cite souvent cette phrase de Bernanos, « Le monde moderne est une conspiration contre la vie intérieure. » Que c'est vrai. Il est dans le bruit, il est dans la distraction, il est dans la multiplication des écrans. Mais la vie intérieure, elle, semble reléguée ailleurs. C'est pourtant elle qui nous permet de garder ce contact avec le ressuscité, de le reconnaître. Vous vous souvenez, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle, eh bien, elle doit bouter l'Anglais hors de France, mais elle doit surtout, pour cela, aller retrouver le roi. Et donc, la voilà partie pour Chinon. Et au milieu d'une assemblée de courtisans, apparemment pas de roi, il n'est pas sur son trône. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comme d'instinct, elle va aller directement vers lui, déguisée en courtisan, et le reconnaître. Quelle belle image pour nous dire ce à quoi nous conduit l'esprit. Reconnaître le ressuscité où qu'il se cache, sous quelque apparence qu'il intervienne dans notre vie. Frères et sœurs, un monde sans vie intérieure, c'est un monde désolé. Voilà pourquoi notre monde et triste. Parce que vient un temps où la joie ne peut plus venir de l'extérieur, mais seulement de cette source très profonde, d'un Esprit Saint plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Alors oui, il faut accepter une certaine descente dans notre cœur, un retour au cœur qui est si difficile pour nous occidentaux. Une Pâque de l'intériorité, disait le Père quant à la Messa. Ce qu'offre le monde, c'est tellement passionnant. Nous sommes parfois comme des petits-enfants qui n'acceptent pas d'aller se coucher. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, un monde à découvrir encore, et aller au lit, ben, c'est pas très emballant. Et nous, rentrer dans cette certaine passivité, un certain repos, une paix qui nous permet de rentrer en contact avec le ressuscité, ça ne nous emballe pas forcément. C'est pourtant le chemin. Alors, quel est le chemin pour parvenir à notre cœur, pour y revenir ? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Elle balise l'itinéraire. Permettez pour témoigner une petite anecdote. Quand j'étais en Argentine, j'ai eu l'occasion de missionner, c'était une grande joie, dans la cordillère des Andes, un petit village à 4000 mètres, Caspala. Un village parfaitement isolé. Les voitures n'y accédaient que depuis très peu. Auparavant, c'était les mules et les piétons, simplement. Il ne faut pas faire trop de romantisme avec tout ça. C'était vécu par les gens du village comme une malédiction d'être à tel point coupé du monde. Ni téléphone, ni rien de tout cela. Du coup, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de misère. Et une femme qu'on rencontre et qui nous dit, elle était évangélique, « Tous les jours, j'apprends un verset de la Bible. Et c'est cela qui me maintient dans la joie. » La Bible lui avait permis d'accéder à cette authentique vie intérieure, cette authentique joie que rien ni personne ne peut arracher. Eh bien, demandons aujourd'hui à la Vierge Marie qu'elle nous aide à rentrer dans cette démarche, dans cette lumière où nous pourrons reconnaître le ressuscité, où nous pourrons porter ce regard sur toute chose, où nous discernerons la lumière de la victoire du ressuscité. Amen.